You are now listening to...
Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
1, 0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18 heures, 19 heures, sur Syllabe.
La radio sauvage.
Mardi 13 mai 2025, il est 6 heures avant minuit dans le studio de Syllabe. Deux jeux concours à vous proposer en ce moment. On commence par le spectacle Tamanegui au Triangle. Ça se passe le mardi 27 mai prochain à 20h. Vous pouvez gagner une place pour ce spectacle d'Ikue Nakagawa, une chorégraphe japonaise qui est accompagnée sur scène de mannequins à l'effigie des membres de sa famille. Ça paraît bizarre comme ça, mais en vrai, je pense que c'est très très bien. Elle les fait dialoguer avec son propre corps dans un jeu de manipulation pour explorer les dynamiques de sa famille. Selon elle, elle dessine sa famille comme un oignon, comme si l'oignon représentait la structure des relations familiales. Oignon, c'est d'ailleurs la signification de Tamanegui, le nom du spectacle, et c'est aussi notre mot de passe si vous voulez gagner. Et puis autre jeu organisé cette fois avec notre partenaire Fest&Braise, que vous avez pu entendre en interview dans 6 heures avant minuit hier. Une place à gagner pour le Fest&Noz à la salle de la Cité ce vendredi soir. On y sera d'ailleurs. Hein. Pour une cham spéciale, ne manquez pas ça. Le mot de passe, c'est Enéade, comme l'un des groupes programmés ce soir-là. Pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr. Mais tout de suite, c'est le flash de Romain.
La faim comme arme de guerre à Gaza. Médecins du Monde dénonce aujourd'hui dans un rapport les actions d'Israël à Gaza. L'ONG alerte sur la malnutrition aiguë des Gazaouis. Depuis 2 mois, plus aucune aide humanitaire n'entre dans l'enclave palestinienne à cause du blocus total instauré par Israël. Médecins du Monde alerte sur la situation des nourrissons et des femmes enceintes. À Gaza, le taux de malnutrition est maintenant similaire à des pays confrontés à des crises de malnutrition dites de longue durée. L'ONG exhorte les dirigeants et dirigeantes du monde à intervenir immédiatement contre des violations graves du droit humanitaire international. La Russie reconnue responsable dans l'affaire de la destruction du vol MH17. En 2014, un avion reliant Amsterdam à Kuala Lumpur en Malaisie était abattu par un missile russe. La tragédie s'est déroulée au-dessus de l'Ukraine sur un territoire occupé par les séparatistes russes. On dénombrait presque 300 morts. Après cette annonce, l'Australie et les Pays-Bas, les pays les plus touchés par l'incident, demandent à la Russie de prendre des mesures pour remédier à cette violation. La Russie, elle, a rapidement réagi, elle dénonce des conclusions biaisées. Gérard Depardieu est reconnu coupable d'agression sexuelle par le tribunal correctionnel de Paris. Il est condamné à 18 mois de prison avec sursis. Le verdict est tombé ce matin, Jeanne, tu reviens sur les faits. Attention, certains témoignages retranscrits dans ce papier peuvent être choquants.
Beaucoup de faits et d'agressions de violences sexuelles et sexistes concernent l'acteur. Ce procès part de 2 plaintes de femmes travaillant sur un tournage de film en 2021. Ces 2 femmes portent plainte pour agression sexuelle. L'une des 2 plaignantes, Amélie, 53 ans, décoratrice dans le cinéma, a témoigné. Il m'a attrapée soudainement avec brutalité, me bloquant en me maintenant entre ses jambes, me pétrissant la taille pour remonter jusqu'à ma poitrine, tout en disant des propos obscènes. L'enquête sur les faits concernant le tournage de ce film a directement donné lieu à un procès. C'est assez rare. Souvent, les faits sont prescrits. Mais ici, les faits étaient récents et soutenus par des témoins. Ce n'est pas le seul procès pour Gérard Depardieu. Il est visé par des faits similaires par beaucoup de femmes. Les accusations s'étalent sur plus de 20 ans, sur un grand nombre de tournages différents. Ces accusations sont faites par différentes femmes, donc elles ne se connaissent pas, elles ne vivent pas dans les mêmes régions et surtout, ces accusations sont confirmées par bon nombre de témoins. La plupart des faits sont prescrits, la prescription en France, c'est 6 ans. En 2018, l'actrice Charlotte Arnoult a porté plainte contre Gérard Depardieu pour viol. Après ça, beaucoup d'alertes ont été envoyées, notamment à Mediapart. C'est à ce moment-là qu'un grand nombre de femmes ont écrit pour dénoncer des violences sexuelles et sexistes subies de la part de l'homme de 76 ans. L'avocat de Gérard Depardieu a essayé tout au long du procès de faire croire à un complot. Le procureur a d'ailleurs spécifié que le choix de la défense devait être pris en compte dans la peine. Gérard Depardieu a fait appel de la peine prononcée.
Merci Jeanne. On parle maintenant de quelqu'un qui l'avait défendu, c'est Emmanuel Macron. Le président de la République veut renouer avec les Français et Françaises. Il participe ce soir à une émission de 2 heures sur TF1. Des débats thématiques sont prévus avec plusieurs personnalités comme Salomé Sacquet, Sophie Binet ou encore Robert Ménard ou Thibaut InShape. On attend la potentielle annonce d'un grand référendum national. Le président l'avait déjà évoqué lors de ses vœux du nouvel an. Les sujets de ce référendum restent encore à définir. Début d'émission prévu à 20h10. Coup d'envoi pour le Festival de Cannes. La cérémonie d'ouverture a lieu à 19h. La première montée des marches du Palais des Festivals est très attendue. Cette cérémonie sera présidée par Laurent Lafitte, suivie d'une projection du film Partir un jour d'Amélie Bonin. Cette année, le jury est présidé par...
Une petite mouche dans le studio, rien de grave, je ne voulais pas qu'elle se monte dessus.
Cette année, le jury est présidé par l'actrice Juliette Binoche. Pour cette 78e édition, 22 films sont en lice pour la Palme d'Or. Elle sera remise le 24 mai. Les supermarchés français en retard sur la transition alimentaire. Une étude du réseau Action Climat publiée ce matin évalue les enseignes des supermarchés français sur leur contribution à une alimentation saine et durable. Le constat n'est pas positif. L'étude met en lumière une précarité alimentaire aggravée par l'inflation, des maladies chroniques liées à l'alimentation en augmentation et une crise agricole qui persiste. L'étude dénonce aussi l'inaction coupable du gouvernement. Le réseau Action Climat demande au gouvernement de fixer des objectifs chiffrés, notamment pour la réduction de la consommation de viande et des importations. Depuis un peu plus d'un mois, le collectif Les Tas de Fêtes organise le passage d'un camion douche dans le parc de Maurepas. Le but, offrir aux personnes exilées et sans-abri l'occasion de prendre soin d'elles. Anthony s'y est rendu.
Malgré les objectifs du millénaire pour le développement lancés par l'ONU durant les années 2000, la pauvreté est toujours bien présente dans nos contrées. Des sans-abri qui n'ont pas un louis d'or pour s'alimenter, ou encore des réfugiés de guerre qui souffrent des horreurs de la guerre. Mais savez-vous qu'un camion douche fait la navette 2 fois par semaine? Et oui, chaque mercredi et dimanche, il vient en aide à un camp de migrants qui se situe au parc de Maurepas à Rennes. Voici Faustine Suski, membre du collectif de Tas de Fêtes, qui va nous parler des missions du camion douche.
Alors le camion douche, il permet aux gens, on vient directement là où les gens sont en tente pour que les personnes puissent prendre des douches, éventuellement si elles en ont envie, voilà. Et après, nous, on a d'autres missions, on a des missions d'urgence où on aide des gens financièrement. Puis on essaye d'accueillir des gens aussi dans notre campagne.
Voici Mohamed Camara, un habitant du camp, qui va nous faire un petit témoignage.
C'est bonne chose pour amener camion de douche ici pour se doucher. Parce que ici il n'y a pas l'endroit où on se lave. Du coup, de temps en temps, on peut se laver là-bas. Du coup, si on a envie de laver, il faut qu'on sorte en ville. Et manger aussi, c'est très bon. Parce que nous, on est là, il n'y a pas à manger. Du coup, s'il y a à manger, c'est très bon. On peut manger. Ouais.
L'Observatoire des inégalités publie depuis peu une carte sur l'état de pauvreté en France. Cette carte indique également le nombre de ménages pauvres sur l'Hexagone. Ainsi, plus les carreaux sont clairs, moins la pauvreté est présente. A l'inverse, plus les carreaux sont foncés, plus la pauvreté est présente. Il vous suffit donc d'aller sur le site de l'Observatoire des inégalités.
Merci Anthony. Et pour faire perdurer cette initiative, le collectif Les Tas de Fêtes appelle aux dons de produits hygiéniques, dentifrice, brosse à dents, protection périodique. Pour les donner, vous pouvez écrire à l'adresse lestasdefetes@framagroup.org. La caravane bretonne d'APF France Handicap était à Rennes hier. Alors que l'association lance un appel à converger vers Paris pour exposer le manque d'accessibilité de la société, la caravane bretonne s'est arrêtée à Rennes hier. Des personnes en situation de handicap se sont retrouvées pour parler d'accessibilité. Ils, elles, ont également proposé des animations sportives autour du handicap sur le mail François Mitterrand. Avec ces ateliers, l'association veut aussi mettre en lumière la précarité des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, l'allocation adulte handicapé est inférieure au seuil de pauvreté. Les convois devraient se retrouver à Paris jeudi pour une grande manifestation.
Merci Romain pour ce flash réalisé en partenariat avec une grosse mouche qui te montait dessus.
Quel heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de l'interview. Qui reçois-tu ce soir, Jeanne ?
Eh bien, autour de la table, il y a pas mal de monde. Hein. Il y a Alexandra Dubreuil. Donc, vous faites partie de la ferme de Quincé. Vous êtes à la fois bénévole et membre du CA. Il y a aussi Léa Thibault, c'est comme ça ?
Oui.
C'est bon, je l'ai. Ok, vous êtes en service civique, vous, à la ferme de Quincé. Il y a également Séverine Arnaud, vous faites partie d'Annette. Donc, c'est, voilà, D'Annette, comme les épices.
comme l'épice que... ou comme Association Nature et Environnement, temps et nifouillard.
Et voilà, ça c'est fait. Et ce week-end, Rennes fait la part belle à la culture des sols. Vous êtes là parce que c'est les 48 heures de l'agriculture urbaine. Et donc, c'est un événement qui fête ses 10 ans. Cette année, pendant 3 jours, il y a plein d'ateliers autour de l'alimentation, du potager, de la nature qui vont être... voilà, on dit ça comme ça, de la nature. On va rentrer dans le détail un peu après. Tout ça va être proposé par beaucoup d'associations, de collectifs. Vous n'êtes, j'ai envie de dire, qu'un échantillon de tous les collectifs qui participent à cet événement. Vous êtes réunis par le Col Vert, donc, qui est une association qui chapeaute cet événement. C'est une association qui a pour but de reconnecter les habitants des villes à la nature, à la culture des sols, à l'alimentation, à la manière dont on produit de l'alimentation végétale notamment. Est-ce que vous diriez que c'est un peu ça, l'essence de l'agriculture urbaine ? Si on pouvait passer ce petit temps de début d'interview à définir un petit peu ce que c'est l'agriculture urbaine.
Oui, super Jeanne. Bah oui, effectivement, les Col Verts, c'est un collectif associatif national. Ils ont une présence notamment sur Rennes, les Col Verts Rennes. L'objectif de cet asso, c'est avant toute chose de favoriser la transformation, de sensibiliser à la transformation des villes pour qu'elles deviennent des villes vivantes et nourricières. Ce que ça veut dire, c'est de se baser sur l'urbanisme et de reconstruire des lieux de nature en ville autour desquels on va pouvoir aller développer du potager, des activités agricoles, des jardins. Alors ça peut être des jardins d'épices, mais ça peut être aussi des jardins sensoriels, favoriser la biodiversité, la pollinisation, etc. C'est pour ça que les Col Verts portent depuis 2020 maintenant, 5 ans, l'événement 48 heures de l'agriculture à Rennes et qui nous ont sollicité en tant que partenaire engagé en fait de ce week-end festif pour inciter les gens à refaire du potager, que ce soit chez eux, que ce soit dans des jardins partagés potagers ou que ce soit encore dans des lieux comme nos lieux, la ferme de Quincé ou le parc de la Jutauderie d'Annette.
Et vos actions, elles sont multiples. Bon, déjà parce que voilà, vous représentez des associations différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu concrètement pour nos auditoristes, un peu qui visualisent ce que vous faites au sein de vos associations, les actions qui sont menées ?
Je peux présenter vite fait la ferme de Quincé. La ferme de Quincé, c'est depuis 2021 un projet qui est porté par le collectif 35 Volts. Donc en fait, on a répondu à un appel à projet de la ville de Rennes qui était d'offrir sur le quartier Beauregard, donc en plein cœur de la ville, une offre à la fois paysanne, festive, enfin culturelle en tout cas, et sociale. Donc depuis 2022, on a donc 2 hectares à peu près, un peu moins de 2 hectares qui sont cultivés en maraîchage bio. Donc on a 2 maraîchers à temps plein qui cultivent tous les jours des bons légumes qui sont faits à quelques centaines de mètres de là où on peut les consommer, voire même sur place nous, parce qu'en fait l'offre culturelle en parallèle, c'est de proposer une guinguette festive en fait entre avril et octobre, ouverte du jeudi au samedi, avec restauration sur place où on peut déguster justement les légumes qui sont mis en valeur. Ils sont également vendus sur les marchés d'Élysée et en vente à la ferme le jeudi soir. Et proposés dans plusieurs restaurants de Rennes, dans une vingtaine, trentaine de restaurants à peu près de Rennes.
Et vos actions s'inscrivent dans une démarche sociale, vous le disiez Alexandra, oui. Avec une volonté de faire du lien entre les gens. Ça, est-ce que vous diriez que ça semble indivisible du projet d'agriculture urbaine? Est-ce que ça fait complètement partie du projet ou c'est un plus? Comment vous le percevez?
Je pense qu'on ne peut pas défendre l'agriculture paysanne et urbaine sans faire du social. Je sais qu'à travers des animations auprès de groupes d'enfants ou même des visites de la ferme, etc., ça nous permet aussi de défendre ce projet, parce que c'est avant tout politique, en fait, de faire quand même une agriculture paysanne et biologique en plein cœur des villes. Donc oui, c'est indispensable de faire du social en parallèle.
Parce que c'est une agriculture très différente de celle qui existe dans les zones rurales. Déjà parce qu'elle a peut-être pas vocation à nourrir tout un territoire, parce que c'est, voilà, là vous parliez de quelques hectares. Donc,
c'est ça, c'est pas le but.
Ouais. C'est pas le but. Et on imagine du coup que c'est pas les mêmes conditions qui sont accordées, ou au contraire des choses qui sont plutôt contraintes. C'est sûrement pas les mêmes contraintes que vous avez que dans les zones rurales. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu, peut-être?
Oui, comme le disait Alexandra, juste pour compléter, le social et l'associatif, de toute façon, ça fonctionne de pair. Donc, nos associations, on a tous, en général, quelques salariés, mais peu, puisque nous restons des associations à but non lucratif. Le collectif vit aussi au travers énormément des bénévoles. Et ça, c'est aussi du collectif qui va travailler sur nos parcs ou sur nos fermes. Donc nous, en l'occurrence, c'est le parc de la Jutauderie à Torigny-Fouillard qui développe et qui propose un certain nombre d'activités autour du potager. À la différence de la ferme de Quincé, chez Annette, on va proposer de la sensibilisation et des activités, des ateliers pour apprendre à faire du potager. Donc soit chez nous au parc, soit de reprendre ces apprentissages et de les ramener chez soi ou dans les jardins partagés de la commune. C'est-à-dire qu'on va donner des ateliers toutes les semaines, les mercredis matin et les mercredis après-midi, parents-enfants ou chantier participatif, où on apprend à faire des semis de tomates. Les enfants repartent avec leurs semis de tomates pour replanter à la maison. On va construire ensemble des jardins, donc d'herbes aromatiques ou des plantes pour les fleurs, le pollen. Donc on a des contraintes qui sont différentes, pour revenir à la question, effectivement, que des grandes fermes qui produisent en masse. Nous, on n'est pas des producteurs en masse. Chez nous, ce qu'on produit, en fait, généralement, on va plutôt, comme c'est des petites quantités, comparé à la ferme de Quincé, puisque on fonctionne différemment, on va soit les donner à nos bénévoles, parce qu'on a aussi des animaux, donc on a des œufs, on a des brebis, on a des chèvres, on a des poules, etc. Donc on partage avec nos bénévoles, où on va les proposer à très 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 petit prix à la ressourcerie, puisque chez Annette, on a et le parc de la Jutauderie, qui est un parc pédagogique, mais on a aussi la ressourcerie d'Annette à Torigny. Donc on peut mettre à disposition à très petit prix pour les gens dans le besoin, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Voilà nos petites productions en toute humilité chaque année. Donc les contraintes sont forcément, nous, on ne prend pas de pesticides, on fait tout naturellement, on fait en permaculture, etc. Donc c'est des contraintes qu'on s'impose nous-mêmes et qui ne nous sont pas imposées. Et comme ensuite on ne revend pas sur des grosses chaînes de distribution, forcément on ne travaille pas de la même manière.
Ouais. Et les 48 heures de l'agriculture urbaine, du coup, si on revient à l'événement, c'est quelque chose, vous l'avez dit un petit peu au début, c'est quelque chose qui a lieu dans plusieurs villes de France. Je ne sais plus exactement le nombre, mais j'étais assez impressionnée en voyant ça. Ça va de Dijon à Lille, à l'Île-de-France, voilà. Et c'est un week-end donc, autour du partage des savoirs sur les cultures du sol, donc très en lien avec ce dont on parle depuis tout à l'heure, avec à la fois des liens de solidarité et une valorisation du lien social autour de la question des cultures du sol. Et donc c'est un moment de rencontre, et vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, Alexandra, de fête aussi. Ça, c'est un point quand même assez important, je trouve, au sein de la proposition, dans tout le programme. On pourrait y revenir tout à l'heure. Donc le but, c'est de familiariser le public à la plantation de végétaux et au fonctionnement du vivant de manière générale. Pourquoi c'est important pour vous de participer à un événement comme ça, collectif, qui réunit là, pour le coup, là, c'est plus la question de faire chacun dans son coin, c'est porter quelque chose de collectif.
Je pense qu'on porte tous les mêmes valeurs. Hein, déjà, l'associatif, l'avantage, c'est qu'on n'est pas concurrents entre nous. On est partenaires en jeu collectif. Quand les opportunités se présentent, on peut faire d'autres choses aussi au cours de l'année. Des activités ou même des rencontres comme aujourd'hui peuvent amener à des projets collaboratifs dans le futur. Donc ça, c'est une première chose. Et d'autre part, vous mentionniez le lien avec le vivant, c'est fêter la nature, c'est fêter la vie. Et les valeurs qu'on partage tous ensemble, que ce soit la ferme de Quincé qui est là aujourd'hui ou toutes les autres assos, hein, jardins familiaux, Colvert, Clairière commune, écomusée de la Bintinée, etc.
Merci de la citer.
On est tous autour d'un projet commun qui est de protéger cette biodiversité, cette nature et cet environnement qui nous fait vivre aujourd'hui et dont on a besoin pour aujourd'hui, pour demain, pour les futures générations. Et c'est, je pense que c'est ça qui nous anime, de porter haut et fort cette agriculture urbaine pour revenir à des valeurs qui sont anciennes, hein, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, mes grands-parents, c'était le grand terrain avec le grand potager. Tout le monde se mettait dehors pour planter, puis ramasser, puis faire les conserves, etc. Donc, enfin, c'est des valeurs qu'on porte et qu'on partage ensemble.
Bon, c'est ça. Le respect de l'environnement, voilà, de la biodiversité.
Oui, et puis là, le fait d'avoir plusieurs associations, c'est qu'on a des petits jardins partagés aux fermes de plus grosses productions. Et du coup, ça permet de voir un large panel d'initiatives aux participants, aux habitants des quartiers, tout ça. Donc ça peut aller effectivement d'Annette à Quincé en passant par les petits jardins, même à la chambre d'agriculture, les jardins familiaux, donc c'est assez large et c'est ça qui est chouette, ça porte tout ça ensemble et ça donne plus de force en fait.
Mais c'est vrai que c'est ça qui est très intéressant avec la programmation, c'est que bon, à la fois, déjà elle se déroule sur 3 jours, donc ça laisse le temps à plein d'activités différentes. Il y a beaucoup d'activités différentes, on va en parler là un petit peu, et puis aussi en effet c'est dans différents lieux à taille très différente, avec aussi des fonctionnements très différents. Déjà là par exemple entre vos deux associations, c'est déjà différent. Les activités elles commencent vendredi, pour celles qui peuvent, c'est à 9h. Voilà, le premier atelier, c'est de la cuisine sauvage, ça se passe à Champy, là où les locaux de l'association Colvert sont situés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur cette association? Bon, après c'est peut-être du coup l'association Colvert qui gère un peu cet atelier. Vous savez à peu près de quoi il est fait? Pas forcément. Eh ben c'est pas grave.
Après les Colvert, ils ont quand même cet objectif de promouvoir dès le plus jeune âge en fait justement ce respect de la nature et des sols. Donc je doute pas que ça sera une activité super chouette à faire avec des enfants.
Ce qui est super important effectivement par rapport à la question d'avant et ce qu'Alexandra vient de dire, c'est que là on parle d'une multitude d'activités tout autour de Rennes, hein, Champy, Cesson, Torigné, etc. Et c'est surtout que ces événements sont accessibles à toutes et à tous. Donc ça permet d'aller toucher un public très 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 large et d'essayer de conscientiser et de faire connaître cette nature qui est cette nature qui est au pas de notre porte finalement, et de sensibiliser. Donc les gens vont peut-être revenir plus souvent ou passer à un autre type d'alimentation, un autre type de consommation qui est meilleur pour leur santé. Et la plupart des événements en plus sont gratuits, donc c'est quand même hyper important.
Hyper important de le notifier, mais tous les événements, je crois, sont gratuits. Des conférences aux expositions, en fait, tout le programme est gratuit. Quasi. En accès libre, il suffit juste de réserver sur le site. Faites-le, si vous voulez assister aux événements, faites-le en amont, comme ça vous avez votre petite place réservée. Et donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, la programmation, elle fait la part belle à la fête. Vendredi, il y a une fête du printemps, samedi, il y a une journée festive et maraîchère, et il y en a d'autres encore qu'on ne cite pas ici. Mais en quoi c'est important pour vous, pour vos assos, de mettre la fête au cœur de cet événement? Ces questions d'agriculture et de culture des sols. Je ne sais pas si ça a été pensé comme ça après. Mais...
Je trouve que la fête rassemble, et sur des sujets importants qui peuvent des fois être compliqués à aborder, ou alors on se sent pas capable de penser à ou de réfléchir à ça parce qu'on se dit on n'a pas fait d'études là-dessus, on n'est pas professionnel dans ce domaine-là. Le fait de ramener de la fête, enlève un peu de pression là-dessus et nous permet de penser un peu plus ensemble et de se dire ah, on peut le voir de façon un peu plus festive, de me répéter, mais oui, ça enlève de la pression et en fait ça rend la chose plus accessible. C'est l'agriculture urbaine, tout ça, même si on n'est pas professionnel, si on s'y connaît peu, ça peut paraître assez, pas forcément barbant, mais parler agriculture, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais amener ça dans un contexte festif avec des ateliers, des concerts, des balades à vélo, tout ça, ça permet une autre approche aussi pour les gens de se dire « Ah oui, en fait, ça peut être sympa de s'intéresser à ça d'une autre façon. »
Puis de sortir de l'image que l'agriculture, c'est les gros champs qui sont au fin fond des campagnes. Maintenant, en fait, l'agriculture, c'est pas un gros mot. Il y en a en bas de chez nous, parfois, souvent, et à Rennes, en plus, Rennes et métropole, on a vraiment, je trouve, un beau terrain pour ça, donc faut le promouvoir quoi de mieux que la fête pour
le faire. C'est rassembleur. Fête est rassembleur, c'est joyeux, on est tous ensemble et c'est collectivement, nous, côté Annette aussi, il y a un sujet de célébrer un peu la vie et la nature, comme on se disait tout à l'heure. Donc plus on est nombreux ensemble en enlevant le côté peut-être effectivement poussiéreux qu'on peut avoir de l'agriculture urbaine. Donc dépoussiérer tout ça en ouvrant les yeux sur la beauté des choses qu'on a à proposer, ça se fête quoi.
Oui, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir le programme sur Internet, sur le site des 48 heures de l'agriculture urbaine. Il y a plein de choses à y faire. On le répète, c'est gratuit, il suffit juste de réserver. C'est là, c'est vendredi jusqu'à dimanche. Il y a plein d'activités, allez-y. Merci à vous trois d'être venus à nos micros.
Merci pour l'invitation.
Merci.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique et Léo est de retour pour un troisième épisode de sa chronique. C'est quoi le wokisme ? De quoi tu vas nous parler, Léo ?
De savoir c'est quoi le wokisme, parce que je me rends compte que...
C'est dans le nom !
Exactement, je me rends compte que ça fait déjà deux chroniques que j'en parle, mais que j'ai pas pris le temps d'expliquer le mot. Est-ce que vous vous souvenez de vos verbes irréguliers en anglais ?
Yes.
Wake, woke, woken. Woke, c'est la forme passée du verbe to wake, qui veut dire réveiller. En 2014, aux États-Unis, il y a eu des grosses manifs en réaction à l'assassinat d'un jeune noir par la police. Et on pouvait lire dans ces manifs le slogan « Stay woke », qui veut dire « rester éveillé ». C'est-à-dire rester lucide sur le fait que la mort de ce jeune, c'est pas juste un cas isolé, mais qu'il y a bien un problème de racisme et de violence dans la police. La preuve, c'est encore arrivé plein de fois, notamment en 2020 avec George Floyd. Entre-temps, le terme est arrivé en France, et maintenant on parle du wokisme comme d'un courant de pensée. Alors pour savoir en quoi ça consiste, vous pourriez aller regarder la définition du Figaro, d'Europe 1 ou de CNews, mais je vous conseille plutôt d'écouter cette chronique. Imaginez que vous vous baladez dans la rue et là vous constatez que le trottoir a été refait. Comment vous formulez la phrase dans votre tête à ce moment-là ? Moi je me dirais, tiens, ils ont fait des travaux. Ils. Autre situation, je suis en train de rager sur un document administratif que je comprends pas et je me dis, ils pourraient faire un truc plus clair. Ils. Ou encore, quand j'écris une histoire, je réfléchis au personnage principal en me demandant « qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?» Il. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Dans toutes ces situations, la figure que je me représente mentalement, c'est presque à chaque fois un homme blanc, a priori hétérosexuel, de nationalité et de langue française, et qui marche sur ses deux jambes. Bon alors, peut-être que tout simplement, j'imagine quelqu'un qui me ressemble, mais je pense que c'est surtout l'influence de l'imaginaire collectif. Ne serait-ce qu'en France, après des siècles de civilisation chrétienne, de théorie raciale, de patriarcat et de plein d'autres choses, on conserve une certaine idée de ce qu'est la norme. L'idée qu'il y a un type d'humain exemplaire, neutre, genre la bagnole avec toutes les fonctionnalités, ce qui suppose que si on n'a pas toutes ces fonctionnalités ou qu'on est un peu différent, eh ben on part d'office avec une infériorité, une moins-value, un handicap quand on n'est pas carrément fiché nuisible. Autrement dit, à moins de correspondre parfaitement à cette norme, on a toujours quelque chose à craindre pour son existence dans la société. En l'occurrence, la norme, c'est être un homme né avec un pénis et la peau blanche, et être valide et désirer les femmes. La langue française, elle impose cette norme et elle discrimine. La preuve, je viens d'utiliser le mot « valide » par opposition à « handicapé ». Une personne avec un handicap, donc, ce serait une personne invalide, qui n'est pas admise dans la société. La langue discrimine aussi en genre, puisqu'elle est binaire et qu'elle ne connaît presque pas de forme neutre. La fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, 40 personnes, dont 40 femmes et un homme pardon, dans un train, ça reste des voyageurs ou des passagers. L'aménagement des villes aussi est discriminant, Romain en parle tout à l'heure. Les bandes blanches du passage piéton et le bonhomme vert, ça s'adresse que aux gens qui peuvent voir. Les escaliers et les trottoirs qui font 30 cm de large, ça ne fonctionne que pour les gens qui peuvent marcher. Vous pouvez faire ce petit jeu dans votre quotidien, compter les choses publiques qui excluent une partie de la population. Alors tout ça a tendance à changer, on légalise le mariage homosexuel, on transforme la langue pour y inclure tous les genres, on réaménage les villes, ça change doucement mais ça change un peu. Et si ça bouge, c'est bien parce qu'il y a des gens qui voient que la société est violente à l'égard de toutes ces personnes qui ne ressembleraient pas à son avatar préféré, et qui militent pour que ça change. C'est ça le wokisme, considérer tout le monde avec la même valeur et atteindre l'égalité dans les droits et dans les faits, pour de vrai.
Merci Léo, le maître de la métaphore. Je crois que notre répondeur clignote, on a quelques messages, on se les écoute.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Salut Cham, et bah écoute, c'est une petite risse, juste parce que hier c'était la première de Jeanne, de Romain et de Anthony sans Héloïse, il me semble. Et voilà, bah juste pour vous dire que vous avez trop géré, donc hâte d'entendre la prochaine. Bonne soirée.
Coucou l'équipe de 6h avant minuit, c'est Benoît de Saint-Malo, fidèle auditeur de Syllab. Donc merci pour le message passé à l'antenne la semaine dernière. Donc ça me fait tellement plaisir d'entendre ma voix à la radio après avoir passé sur une autre radio qui s'appelle Canal B. Hein. J'ai mon ami David d'Aloha Fandren. Donc je vous appelle parce que j'avais vu que j'avais sorti une info concert à la Nouvelle Vague à Saint-Malo. Et je vous annonce que la semaine prochaine, donc le 23 mai, si je dis pas des bêtises, le vendredi 23 mai, il y a la chanteuse américaine très connue qui s'appelle Marcy Gray. Je pense que peut-être pour les auditoristes de Syllab connaissent ce nom-là. Elle avait fait un tube en 1999, je crois que c'était l'été 99, je crois que c'était en juillet ou en août 99, ou peut-être en juin, je sais pas. Elle avait fait un tube qui s'appelle I Try, qui est extrait de l'album On All Life Deep. Désolé pour mon anglais qui est un peu nul, mais c'est un album culte avec pas beaucoup de titres. Bon, certes, c'est une artiste qui a fait pas beaucoup de pubs aussi à la fin des années 90, au début des années 2000. Et donc, elle passe à la Nouvelle Vague à Saint-Malo le 23 mai prochain, donc le vendredi 23 mai, à 20h30. Et il y aura première partie Terra Nae, je sais pas qui c'est cette première partie de Marcy Gray. Alors apparemment c'est une artiste américaine pareil, donc vient du Kentucky je crois, si je ne dis pas des bêtises, et pareil aussi c'est de la soul music, hein, donc comme Marcy Gray. Et puis dépêchez-vous parce que la billetterie va pas tarder à être complète. Donc si vous voulez vraiment voir Marcy Gray, il y a que 3 dates en France, et la seule date la plus proche de Rennes, c'est à Saint-Malo, donc à la Nouvelle Vague le 23 mai prochain, donc le vendredi 23 mai à 20h30 à la Nouvelle Vague à Saint-Malo. Voilà. Bon, je vous souhaite des gros bisous à vous toutes et à vous tous. Et puis, à la prochaine. Ciao.
Merci, chers auditeurs et auditrices, pour ces beaux messages. Si vous voulez faire comme elle et eux, laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Vous pouvez tout nous raconter, nous donner des petits conseils ou des petits retours sur nos interviews, nos reportages, allez-y. Lâchez-vous. Enfin, pas trop quand même. merci à Mazir pour la technique. Et puis, on se retrouve demain.
Radio Sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllabe. La radio sauvage.